I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Si vous avez moins de 30 ans, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. La Redoute, c'est l'ancêtre des sites d'e-commerce. Un catalogue, de la vente par correspondance, et dans les années 90, une promesse qui paraissait alors presque impensable.
Allô La Redoute, mon petit maillot, 48 heures chrono.
48 heures chrono, 48 heures chrono.
L'entreprise de vente à distance, 182 printemps, 7 fois plus vieille qu'Amazon, a dû depuis s'adapter pour espérer fêter un jour ses 200 ans. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et à un moment très important pour la distribution, les fêtes de Noël, je vais m'intéresser à une vieille dame qui a su changer de garde-robe pour se faire une deuxième jeunesse. Quand je pense à La Redoute ou à son concurrent Les Trois Suisses, il me revient l'image de ma grand-mère. Assis près d'elle, peu avant Noël, je feuilletais la fin du catalogue pour regarder les jouets et voir ce que le Père Noël pourrait m'apporter, vu qu'à l'époque j'étais très sage. Cela fait longtemps maintenant que le gros catalogue, plus de 1000 pages, ne traîne plus sur la table basse du salon de mes parents ou de mes grands-parents. Aujourd'hui, Amazon, la Fnac ou Cdiscount dominent le marché français de la vente par correspondance et la plupart des fabricants ont ouvert leur propre site pour présenter leurs chalandises. Mais à 182 ans, La Redoute n'a pas dit son dernier mot. Isabelle Lesniak a réalisé pour les Éco Weekends une business story sur la vénérable entreprise nordiste. Elle est d'abord revenue sur les débuts. À Roubaix.
À l'origine, La Redoute, c'est une famille de grands industriels du Nord qui est basée à Roubaix. Donc, ils s'appellent les Paulet. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques que les Muliez qui vont faire Auchan ou les Prouvaux qui vont bâtir un empire de presse avec notamment Marie-Claire. Donc, les Paulet, ce sont des fils d'agriculteurs et ils décident de créer tout d'abord une filature de laine peignée. Donc, c'est le papa, Joseph, qui crée cette filature et qui va ensuite être développée par son fils, Charles, qui va la faire prospérer. Donc, d'entrée de jeu, ils se disent qu'il ne faut pas privilégier la quantité, mais la qualité. Donc, c'est des fils, tout d'abord de laine, puis de coton, de très grande qualité. Ils gagnent plein de prix, plein de concours industriels à Paris. Ils sont donc sur la base d'une très bonne qualité à un prix relativement abordable. Donc ça reste encore le mantra de La Redoute. Et puis, très tôt, ils font preuve de beaucoup de créativité au niveau de la distribution. Donc, ça commence après la Première Guerre mondiale. Il y a une crise du textile. Ils n'arrivent plus à écouler leur stock. Et ils se disent qu'ils vont faire passer une petite annonce publicitaire dans le journal de Roubaix. Et c'est donc comme ça qu'ils vont écouler les laines filées avec déjà des éléments en solde, les écheveaux, les pelotes de laine. Donc ça, c'est un peu l'ancêtre de la vente par correspondance. Et le catalogue, le fameux catalogue, est créé en 1928.
Cette crise, en sortir de l'après-guerre, c'est ce qui les a poussés à se lancer dans la vente par correspondance. Ça a été le déclic ?
Tout à fait. Et ensuite, ils vont avoir une imagination et une réactivité qui ne s'est jamais démentie. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un nouveau moyen de faire du marketing et un nouveau canal de distribution, ils vont s'y engouffrer. Donc, les commandes par téléphone. Ensuite, le fameux Minitel, 3615 La Redoute. Et enfin, le site Internet, donc à côté de cette vente par correspondance. Dès 1994, la même année qu'Amazon, il lance donc le site La Redoute.
Alors, le succès a été immédiat. J'ai vu qu'il y avait un fichier de 600 000 noms de clients en 1928. Et puis en 1964, hein, La Redoute entre en bourse. Il propose 50 000 références, un catalogue de plus de 1000 pages. Et c'était l'e-commerce avant l'heure ?
Oui, alors on peut se dire que finalement, leur offre, qui était quand même assez pléthorique, enfin, c'est le, ils disent exhaustive pour les anciens temps, préfigurait bien de l'e-commerce. En fait, c'est plus compliqué. C'est vrai que du coup, ils avaient l'offre pour faire une marketplace, ça c'est sûr. En même temps, la culture est assez opposée des deux mondes. Donc eux, ils vivaient dans un monde de VPCistes avec un catalogue, des collections très figées. Donc, on devait recevoir les produits 6 mois à l'avance, les photographier, les mettre en scène dans un catalogue finalement très codifié. Et alors que, évidemment, le règne de l'e-commerce, c'est la réactivité, l'agilité, essayer de s'adapter au goût des clients.
Des collections qui changent très, très vite.
Hein. Des collections qui changent très, très vite. Et puis aussi, ce qui ne se passait pas tellement bien, même s'ils avaient les données, ils les exploitaient assez mal. Or, La Redoute, c'est une base de données de 10 millions de clients que maintenant, évidemment, ils travaillent pour comprendre ce qu'il faut sortir et à quel moment de l'année.
En 1992, pour les 70 ans de l'activité de VPC, La Redoute s'offre une publicité revigorante réalisée par Étienne Chatillaise.
Cette année, La Redoute a 70 ans. 70 ans, c'est pas tout jeune. Hein.
Une vieille dame déambule dans la rue avec sa canne, puis se met à danser et entame un striptease sur les Champs-Élysées. Surprise, sa perruque blanche tombe. La foule reconnaît alors l'une des mannequins vedettes de l'époque, Linda Evangelista.
Bon anniversaire, ma vieille.
Dans les années 90, la société est à son apogée. Isabelle, 25 ans plus tard, Internet a failli tuer La Redoute ?
Oui, alors il y a finalement les sites d'e-commerce comme Amazon qui se développent. Donc ça, c'est une concurrence qui vient d'Internet. Et puis aussi, donc, comme ils étaient très positionnés quand même sur la mode, la fast fashion, les H&M, les Zara, avec leurs modèles différents de collections très rapides qui se renouvellent, créer un peu la pénurie et l'envie, ça, La Redoute n'était pas tellement là-dessus. Et donc, ils ont cette double concurrence qui les met au bord de la faillite.
Et pourtant, hein, La Redoute a ouvert son premier site internet en 1994, la même année qu'Amazon. On a vu la différence quand même. Hein.
Tout à fait. Et maintenant, c'est finalement une marketplace, mais qui est marginale dans le modèle, un peu comme Amazon, c'est-à-dire qu'eux se sont recentrés avec le plan des repreneurs sur la mode et l'ameublement qu'ils créent en marque propre, c'est-à-dire 70% du chiffre d'affaires, c'est leurs collections qui sont faites par leurs stylistes maison. Mais on peut quand même, sur le site de La Redoute, trouver de la maroquinerie, des bijoux, une piscine, qui seront vendus donc par des tiers et expédiés par des tiers, un peu sur le modèle Amazon. Mais ça, c'est une partie très, 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 très faible du chiffre d'affaires actuel.
En 1875, Charles Paulet installe sa filature rue de La Redoute à Roubaix. Voilà d'où vient le nom de la société. En 1994, La Redoute intègre le groupe Red Cats, filiale du groupe Kering, l'ex-Pinot Printemps Redoute. En 2013, Kering décide de mettre en vente La Redoute. Alors, on ne va pas le cacher, il n'y a pas beaucoup de prétendants. À l'époque, Isabelle, l'entreprise ne va pas bien ?
Non, alors elle est vraiment au bord de la faillite. Finalement, il y a 4 offres de reprise, donc d'industriels et de financiers, mais qui sont très sur l'idée de il faut faire un concurrent direct à Amazon avec une marketplace, au risque de tuer la marque et ce qui faisait quand même la création propre, la notoriété de la marque. Alors, Eric Courteil et Nathalie Bala connaissent bien l'entreprise puisqu'ils étaient les anciens dirigeants sous Kering. Et donc, eux se disent que c'est quand même un peu dommage de tuer une marque qui est si familière aux Français et dans l'imaginaire qui a une telle place. Et donc, ils vont s'appuyer en fait sur la notoriété qui est quand même inégalée de cette marque pour faire des choix absolument drastiques et radicaux et redresser la marque en 5 ans.
Et ils vont y arriver. Hein. Eric et Nathalie, on dirait presque un nom de marque d'ailleurs dit comme ça. Ils vont vraiment remettre le travail sur le métier, comme on disait justement dans l'industrie textile ?
Tout à fait. Et avec des choix donc, qui sont vraiment maintenant qui apparaissent visionnaires, mais qui étaient quand même très osés à l'époque. Donc, on a fini avec le gros catalogue et alors là, c'est pas seulement une façon finalement de présenter l'offre, c'est aussi une façon de structurer l'entreprise, les équipes. Enfin, c'était vraiment le calendrier de l'année et l'organisation de l'entreprise était calquée sur le catalogue. Donc ça, c'est un sacré mouvement. Ensuite, ils décident de ne plus vouloir tout vendre. Donc, ils prennent 2 piliers de développement. La mode, puisque évidemment, la Redoute est connue pour ça. Et l'ameublement, ce qui est un sacré pari. Alors, c'est quand même assez intelligent parce que finalement, ce sont deux marchés marché le prêt-à-porter, l'ameublement qui sont complémentaires. Il y en a un qui est très très morcelé, la mode, avec des mouvements très vifs mais aussi très brutaux, alors que dans l'ameublement, finalement, c'est un développement depuis les années 70 beaucoup plus calme, avec finalement aussi beaucoup moins d'acteurs, parce que évidemment, pour notamment aller livrer un canapé, c'est pas pareil que livrer un petit colis avec une petite jupe ou voir un manteau, et donc du coup il y a une barrière à l'entrée qui fait qu'il y a moins d'acteurs. Donc c'est quand même assez intelligent, puisque ça permet d'avoir des cycles complémentaires et aussi d'avoir donc une clientèle qui vient regarder sur le site, voir dans les magasins comme les Galeries Lafayette du prêt-à-porter, et finalement ils se rendent compte que aussi il y a des meubles, qu'ils sont plutôt vraiment pas mal, et donc c'est les deux bases du développement. Et évidemment, un entrepôt logistique, puisque quand même c'est le nerf de la guerre face aux Zalando, face aux Amazon, il faut avoir une possibilité d'expédier les commandes beaucoup plus vite. Et donc ça, il crée un entrepôt logistique très très moderne à Waterloo. Et donc les commandes sont préparées en 2 heures.
Alors l'entreprise, on l'a dit, a été rachetée à Kering par les dirigeants et puis par des salariés. Il faut le souligner hein, quand même, c'est que le groupe Kering n'a pas plombé les repreneurs. Hein.
Non, d'entrée de jeu, ils leur cèdent l'entreprise pour 1 euro symbolique et ils investissent dans l'entreprise, ce qui en fait permet notamment de créer cet entrepôt logistique et donc finalement de détruire l'ancien. Donc il y a quand même des moyens qui sont mis au service tout d'abord de la redoute. C'était un pari assez intelligent puisque finalement, 3 ans après la reprise par Eric et Nathalie, les deux groupes commencent à avoir des contacts. En fait, les Houzés, qui sont propriétaires des galeries, voient qu'il se passe quelque chose, qu'il y a l'air d'avoir un renouveau de la redoute, notamment au niveau digital, ce pourquoi les Galeries Lafayette ne sont pas très connues. Et donc, il y a un fameux déjeuner. En fait, les Houzés invitent Eric et Nathalie au siège Boulevard Haussmann. Le contact passe très, très bien. Ils se découvrent finalement à la fois une même mentalité de commerçant et des offres complémentaires. Et donc, finalement, en 2017, les Galeries Lafayette annoncent qu'elles prennent 51% de la redoute, avec objectif d'en avoir 100% en 2021.
Et ça aussi, c'est un tournant pour la redoute ?
Oui, tout à fait, parce que jusque-là, bon, déjà, ça valide leur stratégie. Il y a un groupe familial stable, avec une assise financière auquel s'adosser, donc ça, c'est très bien. Et puis, la redoute avait un petit peu dans l'idée, en 2014, de faire des magasins physiques, mais c'était vraiment pas leur priorité. Ils essayent un magasin à Saint-Germain-des-Prés parce qu'ils en ont la possibilité, un corner au BHV, mais enfin c'était pas vraiment dans le plan de départ. Et là, ils se disent que évidemment ils vont avoir accès au réseau physique des Galeries Lafayette. Alors Boulevard Haussmann, c'est sûr, avec le navire amiral, mais finalement moi j'ai trouvé que leur offre était pas si bien mise en avant. Elle est un peu perdue au fond du deuxième étage, mais en province ça a beaucoup plus de sens, puisque finalement ils offrent un segment meilleur marché avec une grande qualité et un esprit dans l'air du temps dans les Galeries Lafayette. Et ça leur donne évidemment une exposition dans les centres-villes de toutes les Galeries Lafayette de France, donc une cinquantaine de magasins physiques.
Alors la Redoute a aussi une particularité, vous le signalez dans votre article pour les Éco-Weekends. C'est une entreprise de femmes ?
Oui, parce que jusque-là, leur cliente était souvent la maîtresse de maison qui regardait le catalogue et qui organisait à la fois l'habillement pour toute la famille, la gestion des cadeaux de Noël et le reste. Donc, 70% des cadres sont des femmes. J'en ai rencontré beaucoup qui, finalement, sont venues de Paris, qui ont abandonné leur poste dans la grande distribution pour suivre Nathalie, puisque plus que Eric et Nathalie, c'est Nathalie qui a souvent un effet d'entraînement. On a l'impression que c'est quelqu'un très convaincant, assez discret, enfin pas du tout rentre dedans, mais c'est vrai qu'elle est assez charismatique. Et puis donc pour la clientèle, 80% sont des femmes. Avec cette partie ameublement qu'ils développent, il y a quelques hommes qui maintenant s'intéressent au canapé qu'on va acheter ou à la table de salon, donc ça a un petit peu rééquilibré les choses, mais enfin on est encore loin de la parité.
Alors c'est une entreprise hein, qui s'est modernisée en reprenant les codes des champions de la mode sur le digital, avec notamment hein, cet entrepôt qui permet de réagir beaucoup plus vite. Elle s'appuie aussi beaucoup sur des jeunes designers ou stylistes, loin de l'image un peu mémère du catalogue des années 80.
Oui, alors ils ont leur styliste maison, donc ça c'est vraiment un réseau en propre. Ils sont très fiers par exemple de défiler à la Fashion Week à Moscou, donc ça valide qu'ils sont, même pour des Russes, ils ont des collections à faire valoir. Et puis ils ont eu depuis les années 60 finalement une grande tradition des collaborations avec des grands noms de la mode, donc ça c'est maintenant évidemment les collections capsules capsule éphémère que tout le monde fait, mais eux, ils étaient assez précurseurs. Donc la première était en 1969 avec Emmanuel Kahn, et ensuite c'est devenu un des rendez-vous assez réguliers. Il y en a un qui a beaucoup marqué les esprits, c'est en 1996 Yves Saint Laurent qui accepte donc de vendre son smoking chez La Redoute. La veste coûte à l'époque 1400 francs et le pantalon 700 francs chez La Redoute, alors que dans les boutiques rive gauche, on en est à 15 000 francs. Donc ça fait grincer pas mal dedans, puisque lui trouve un public plus populaire, mais en même temps, pourquoi payer 7 fois plus en magasin ce que je peux avoir chez La Redoute, beaucoup meilleur marché, et aussi avec une notion par rapport aux Zara, où eux ne jouent pas vraiment sur la rareté. Ils ont une collection et ils n'exploitent pas le côté j'en fais un très petit nombre de pièces pour que tout le monde se les arrache et pour faire le buzz. Eux sont plus sur des collaborations d'assez long terme. Par exemple, actuellement, c'est Vanessa Stewart et ils vont renouveler puisqu'ils trouvent qu'elle colle bien à l'image maison.
Vous connaissez Vanessa Stewart, Julia? Oui, je suis sûre que vous alliez aimer. Alors, elle a travaillé pour les plus grands. Elle a travaillé donc chez Chanel, elle a travaillé pour la maison Yves Saint Laurent, à Zara, avant de créer sa propre marque. Et alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va toutes pouvoir se payer un peu de ces très jolies collections, puisqu'elle fait une collection pour la grande enseigne de prêt-à-porter nommée La Redoute.
La Redoute est née en 1922 d'une filature créée en 1837. L'histoire fait bon l'ère industrielle, mais l'entreprise a aussi pris des codes très Silicon Valley, on le disait, avec la création alors d'un sparring board. Expliquez-moi ça.
Alors, Eric et Nathalie sont tout à fait convaincus que finalement, ils ont réussi le premier volet qui est de sauver l'entreprise, mais que pour durer et pour que la croissance soit encore au rendez-vous dans un monde aussi mouvant que celui d'Internet avec des concurrents qui sont très dynamiques, il faut qu'ils continuent à être nourris et que surtout, c'est leur expression, ils ne s'endorment pas. Alors, quel meilleur moyen de ne pas s'endormir que de s'entourer de jeunes? Donc, ce sparring board est fait de jeunes collaborateurs, une dizaine. C'est une promotion annuelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont choisis des jeunes par leur père dans toutes les fonctions et ils se rencontrent avec donc, les deux dirigeants une demi-journée par mois. C'est vraiment eux qui mènent la réunion sur les thèmes qui les intéressent avec leurs priorités. Donc, par exemple, la dernière fois, ils ont imaginé un COMEX de 2030 avec leurs propres priorités. Et donc, c'était évidemment les questions de RSE, d'environnement, qui était très mis en avant. Ils avaient imaginé un système de livraison à vélo et ils avaient même racheté un média parce qu'ils savent que la vieille publicité, ça ne marche plus et donc sans doute, c'était pour faire du brand content.
Oula, ça fait beaucoup de termes anglais, on est dans la Silicon Valley, effectivement, le brand content, c'est...
Donc finalement, un autre moyen de raconter des histoires autour des marques, puisqu'on sait que les gens sont plus très sensibles aux publicités traditionnelles comme celles qui ont marqué l'histoire de La Redoute et donc on raconte des histoires de stylistes, on raconte des histoires de produits, on raconte des histoires de collaboration. Et donc, évidemment, en ayant son média propre, c'est plus facile pour produire ses contenus.
Aujourd'hui, la Redoute se porte mieux?
Oui, alors c'est une petite entreprise par rapport à ce qu'elle a été. Enfin, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, 1750 salariés, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus un mastodonte. Le but est d'arriver à 1 milliard en 2021. Les dirigeants sont assez contents de dire que le chiffre d'affaires est en croissance, que le résultat opérationnel est positif et qu'ils assument leur autofinancement. Donc ça, c'est déjà des raisons de se réjouir.
Alors, on a vu effectivement comment La Redoute, finalement, avait réussi à s'adapter à l'évolution du commerce et notamment à l'émergence du commerce électronique. Qu'est-ce qui fait que La Redoute, ou les trois Suisses d'ailleurs, ont survécu là où beaucoup de sociétés de vente par correspondance ont passé la main gauche?
Donc finalement, ce qui distingue les rares cas de succès dans cette industrie qui est quand même très mouvante, c'est que certaines marques ont réussi à devenir ce qu'on appelle les reines de l'omnicanal, c'est-à-dire à avoir une offre qui passe à la fois par le digital et par le physique et de façon très convaincante. Alors il y a un très bel exemple qui est aux États-Unis, Nordstrom, une entreprise qui réalise 30% de son chiffre d'affaires par les ventes digitales, qui a lancé son site dès 98. Donc ça, c'est aussi un peu le cas de La Redoute. Et donc, Nordstrom, comme La Redoute, finalement, a à la fois une grande partie des ventes sur Internet et puis des magasins physiques qu'il bichonne, vraiment qu'il veut un complément au site Internet. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que loin de cannibaliser les achats, les gens qui vont dans le magasin physique voient des objets qui sont bien remis, bien mis au goût du jour. Ça favorise les achats d'impulsion. Et ensuite, ils vont visiter le site internet parce qu'ils ont été en magasin. Donc finalement, c'est un effet vertueux. Et surtout, si les magasins ont un peu des concepts originaux très tournés sur les services, c'est la grande tendance du moment. Donc Nordstrom propose par exemple de personnaliser ses jeans ou d'avoir des personnel stylistes qui vous expliquent ce qui vous va et ce qui vous va moins bien. La Redoute, c'est le dernier projet en date, donc ça va ouvrir en février, rue d'Uzès à Paris. C'est un concept un peu lifestyle, donc c'est pas tout à fait un magasin comme on a l'habitude de les voir, avec une bibliothèque, avec tout ce qu'on peut imaginer comme conseil sur l'ameublement, un café, des ateliers de co-création avec les clients, donc l'idée c'est de vendre une expérience alors que sur le site on achète juste des produits.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos, pour nous avoir conté le sauvetage d'un VPCiste à l'heure d'Internet. La société revendique encore 10 millions de clients dans 26 pays, dont 90% de femmes. Son site annonce 9 millions de visiteurs uniques par mois, dont la moitié sur mobile. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.